Je n'en ai pas beaucoup. Peut-être que éventuellement je vais un peu entrer dans son territoire en ce qui concerne les victimes, mais je commencerai d'abord par la question du refoulement. Par rapport aux trois actions urgentes qui ont été soumises à l'État parti, je voudrais revenir sur les éléments de clarification que j'avais demandé sur la procédure de refoulement. Parce qu'il est important pour comprendre un peu la procédure de refoulement, pour comprendre un peu ces actions urgentes qu'on vous a soumises, de comprendre comment la procédure se déroule. C'est pourquoi j'avais demandé qui était l'autorité administrative qui émettait cette décision d'expulsion. Et ensuite, une fois que cette décision est prise, et on suppose que c'est une décision écrite, comment cette décision est notifiée à l'intéressé? Ensuite, est-ce que l'intéressé bénéficie d'un délai clair lui permettant d'intenter un recours contre cette décision? Et quelle est l'autorité devant laquelle cette décision est déférée? Et ensuite, et ce qui est important dans le cadre de ces procédures qu'on a connues, des actions urgentes, de ces gens qui se sont plaints d'avoir été expédiés manu militari, poings et pieds liés, et exposés à des risques de détention ou de disparition forcée, est-ce que quand ils contestent cette décision, les expulsant ou les refoulant de ce pays, est-ce que cette décision de recours, cette contestation a un effet suspensif de la décision. Donc, ces éléments de clarification nous auraient permis de comprendre ce qui s'est réellement passé dans ces trois affaires. Parce que le garde des Sceaux, je ne sais pas si je dois dire garde des Sceaux, enfin le ministre de la Justice, disons, nous a fait comprendre que c'est en exécution d'une décision judiciaire que le Royaume du Maroc a agi en toute légalité par rapport à ces trois affaires. Donc, il serait important qu'en retour, nous puissions comprendre quelle a été la procédure respectée en amont comme en aval. Ensuite, j'avais demandé où est-ce que le Royaume du Maroc en était avec ce projet de mise en place d'un fichier électronique national qui regrouperait toutes les informations concernant la garde à vue sur toute l'étendue du territoire. Donc, je ne crois pas avoir eu de réponse par rapport à ça. Et d'autres éléments, je crois que ça porte sur les victimes. Je ne sais pas si mon collègue va revenir sur la question, mais moi, j'ai quelques clarifications à solliciter, à savoir où est-ce qu'on en est dans le processus de réparation ou de réhabilitation des victimes. Je peux me tromper, mais je pense que toutes les victimes n'ont pas été prises en charge. Parce que, apparemment, à l'époque, il y avait eu un délai de recours qui avait été mis en place pour permettre. C'est normal qu'il y ait une période de forclusion, ça ne peut pas rester ouvert. Donc, il y a eu un délai au cours duquel les personnes qui se sentaient victimes devaient se présenter pour demander réparation ou indemnisation par rapport. Ce délai passé, certaines demandes ou certaines personnes ont été déclarées foreclosed. Ils se sentaient certainement laissés pour compte ou oubliés. Est-ce que le Conseil national des droits de l'homme envisage de réouvrir le dossier de réparation? Est-ce que le Conseil national envisage réellement de réouvrir le dossier de réparation et d'indemnisation? Et ensuite, une question technique peut-être, par victime, on entend d'une part la personne qui a disparu, mais également ses proches. Est-ce que les proches ont un recours collectif ou un recours individuel? Et si c'est un recours individuel, jusqu'à quel niveau vous considérez que quelqu'un est un proche et peut être vu ou considéré comme une victime? Voilà. Monsieur le garde des Sceaux, quelques clarifications que j'aurais voulu. et je me tourne vers mon collègue pour compléter. Merci.
Au Maroc, on n'a pas des sous.
Au Maroc, on n'a
pas des sous.
Le sou
de la justice.
Le sou royal.
Merci beaucoup pour ces questions complémentaires.